Bonjour frères et sœurs. Donc on va continuer avec notre étude dans la théologie de la Nouvelle Alliance. Aujourd'hui, on a quand même un sujet assez long, le peuple de la Nouvelle Alliance. Qui est le peuple de la Nouvelle Alliance? Oui, les païens sont inclus, c'est vrai. Nous, en réalité, c'est l'Église. C'est rapidement une manière d'interpréter, ça résume à ça, une manière d'interpréter la Bible, et puis on donne priorité au Nouveau Testament sur l'Ancien Testament pour interpréter justement l'Ancien Testament. On le fait par rapport à ce qui nous enseigne aussi la théologie biblique, c'est-à-dire toute la révélation de la Bible comme une histoire, l'histoire du salut, de façon chronologique. L'Ancienne Alliance transformée à une nouvelle alliance, on le voit dans le Nouveau Testament et même des annonces dans l'Ancien Testament, comme il y aura une nouvelle alliance qui va remplacer même l'ancienne, mais aussi un effet des transformations, comme la chenille en papillon. On va revenir sur ce concept après, dans notre synthèse à la fin, au dernier cours que nous allons avoir dans 2 semaines. La nouvelle alliance est fondée par le Saint Jésus, c'est lui-même qui l'a inaugurée lors du repas avec Pascal, avec ses disciples avant de mourir. Donc, elle était éternelle. Donc, il n'y aura pas une autre alliance. C'est la dernière alliance, c'est la nouvelle alliance éternelle. D'abord spirituelle ici, avec l'Église, avec toutes les bénédictions, puis sur la nouvelle terre à la fin des temps. Nouvelle avec une nouvelle loi. Quelle loi? C'est celle de Christ, comme on l'a vu la semaine passée avec Pasteur Richard, et avec un nouveau peuple aussi, croyants juifs et païens, comme tu avais dit, mon frère. Donc, les juifs et païens sont réunis dans le nouveau peuple de la Nouvelle Alliance. Donc, c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. 8 leçons rapidement, l'introduction, on a vu un survol aussi. Et sachez que toutes ces études-là sont déjà enregistrées sur notre site web. Et même les vidéos sont aussi sur le site web, sur notre chaîne YouTube, Église Baptiste Évangélique de Rosemont. Donc, on a étudié l'annonce de la Nouvelle Alliance aussi, dans le Nouveau Testament, pardon, l'Ancien Testament, l'établissement de la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament. La loi de la Nouvelle Alliance, c'est ce qu'on a vu la semaine passée. Aujourd'hui, on va regarder en ce qui concerne le peuple de la Nouvelle Alliance. Et on reviendra sur les événements de la fin des temps. Et dans la semaine prochaine, avec une synthèse, peut-être on va encore embarquer sur les événements de la fin des temps. On va étudier un peu les différentes positions, mais surtout l'eschatologie. Et donc peut-être on va dépasser un peu la leçon 8. Mais on va quand même finir en faisant une synthèse de tout ce que nous avons vu en ce qui concerne la Nouvelle Alliance. Donc, aujourd'hui, nous allons étudier en ce qui concerne le nouveau peuple. Donc, le passage de l'Ancienne Alliance à la Nouvelle comporte un dernier élément important, et c'est le peuple de Dieu. Comment donc interpréter l'expression « le peuple de Dieu » qui se trouve dans l'Écriture, donc qui se trouve dans les deux testaments, en fait? Il est clair que les lunettes qu'on choisit, ce qu'on a parlé tantôt, et la priorité sur le Nouveau Testament pour interpréter l'Ancien Testament, donc ça dépend des lunettes que nous choisissons pour définir la Nouvelle Alliance et la nouvelle loi. Et cela va influencer aussi notre vision en ce qui concerne le nouveau peuple aussi. En accordant la priorité au Nouveau Testament, comme je viens de vous dire, pour interpréter l'Ancien, on inclut que l'Église est le nouveau peuple de Dieu. Donc ça va être notre conclusion. En Pierre, l'apôtre Pierre écrit dans son épître 2:10, « Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. » Et ça, il est en train d'écrire dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire c'est ce qui concerne aussi déjà la Nouvelle Alliance. Donc, vous êtes le nouveau peuple, dit. On va regarder tantôt à qui il parle. Est-ce qu'il parle juste aux Juifs, il parle aux chrétiens, ou les deux? Donc, on trouve cette expression 5 fois dans la Bible, en ce qui concerne le mot exact, le peuple de Dieu. On le trouve, parce que le peuple, on le trouve Je ne sais pas combien de fois, si on fait une recherche dans la Bible, le mot peuple, on va le trouver au moins peuple, comme l'Éternel, des fois, s'exprime en ce qui concerne son peuple, le peuple d'Israël. Donc, on peut le voir des milliers de fois, je crois. Mais en ce qui concerne le peuple de Dieu, il y a 5 fois qui est utilisé dans la Bible, 2 fois dans l'Ancien Testament. Dans Juges 22, les responsables de tout le peuple, c'est écrit, de toutes les tribus d'Israël, se présentèrent dans l'assemblée du peuple de Dieu. Ça, c'est dans le temps des juges. Et on voit l'expression « le peuple de Dieu ». Donc, il s'agit de tous les individus des tribus, descendants même d'Abraham dans cette période, jusqu'à la période des juges. En 2 Samuel 14:13, la femme dit « Pourquoi alors as-tu cette attitude à l'égard du peuple de Dieu ?» On est dans le contexte un peu du royaume du roi David. Donc, l'expression vise tous les sujets du royaume de David aussi, dans ce verset-là, qu'on parle du peuple de Dieu. Dans le Nouveau Testament, on trouve cette expression 3 fois. Là, aujourd'hui, on clique. Hébreux 4:9, « Il reste donc en repos, ça c'est Hébreu qui parle, de repos sabbat et de sabbat pour le peuple de Dieu. » Il utilise... Et il désigne ceux qui sont entrés dans le repos et qui sont reposés de leurs œuvres, c'est-à-dire ceux qui deviennent chrétiens. Il y a une redéfinition du peuple de Dieu ici, pour incorporer seulement ceux qui, par la foi et non par les œuvres, sont entrés dans les repos salutaires. Si vous lisez tout l'épître aux Romains, vous allez voir qu'il parle vraiment d'un repos spirituel. Et dans ce sens-là que l'auteur de l'Épître parle de ce peuple de Dieu. Mais il utilise aussi une autre expression. Et il dit « aimant mieux » en parlant de Jésus, de Moïse, « aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. » Là, il est en train de parler de Moïse, il se réfère au peuple de Dieu, mais dans ces cas-là, l'auteur retourne à l'usage de l'Ancien Testament, car il distingue l'héros de la foi, Moïse, par rapport aux Égyptiens. On voit encore une autre utilisation dans l'Épître de Pierre aussi. Et vous qui autrefois, comme on l'a lu también, aussi, n'étiez pas un peuple et qui maintenant est le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et que maintenant vous avez obtenu miséricorde. Donc, quel est ce peuple de Dieu? Selon l'apôtre Pierre, il semble écrire, quand vous voyez le premier chapitre de l'apôtre Pierre, de cette lettre-là, écrire à ceux qui sont issus d'Abraham, car il s'adresse à la dispersion, à la diaspora, dans Pierre 1:9, et ce terme normalement est consacré pour indiquer les Juifs dispersés en dehors d'Israël. Pardon, j'ai dépassé un peu les bornes, mais c'est marqué « dispersés en dehors d'Israël ». La maison spirituelle à qui il s'adresse dans 1 Pierre 2:5, donc il faudrait vraiment lire toute l'épître de Pierre parce qu'il parle aussi de la maison spirituelle à qui il s'adresse, et l'Église, composée de quoi? Des Juifs et païens aussi. Ni en groupe, n'était le peuple de Dieu auparavant. Maintenant, ils sont le peuple de Dieu, Juifs et païens. Et regardez bien que le terme utilisé, c'est vraiment le même qu'on utilise dans l'Ancien Testament par rapport à Dieu, le peuple de Dieu. Pourtant, et maintenant, ils sont tous le peuple de Dieu, mais ni un groupe ni l'autre n'était le peuple de Dieu auparavant. Donc, dans la nouvelle alliance, les deux ont été élus. Les deux forment maintenant le nouveau peuple de Dieu. Les uns ont cru au Messie d'Israël et les autres au Christ, c'est-à-dire ceux qui ont un arrière-plan juif. Rappelez-vous que l'Église est née des Juifs. Les premiers qui se sont convertis, c'était des Juifs. Mais si on dit qu'ils parlent vraiment aux Juifs, pourquoi donc leur dire « vous n'étiez pas un peuple » Donc, il dit même aux Juifs, si c'est pour les Juifs, il dit « vous n'étiez pas un peuple, maintenant vous êtes le peuple de Dieu. » Parce que c'est le nouveau peuple de la Nouvelle Alliance. Pierre décrit l'Église par des noms de l'Ancien Testament utilisant pour le peuple particulier des dieux dans l'Ancienne Alliance une race élue. Il utilise des expressions de l'Ancienne Alliance en se référant au nouveau peuple de Dieu. On voit peut-être là, vous allez dire oui, quand même, il y a quand même un aspect de la continuité. Donc, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté. Et il parle de l'Église. En accord avec la nouvelle définition du peuple de Dieu par Paul, dans Éphésiens 2, si vous lisez Éphésiens 2, qu'il a mis à terre le mur des séparations entre les païens et les juifs, au Éphésiens aussi, chapitre 3, les juifs et les païens qui se convertissent à Jésus-Christ font ensemble partie de ce nouveau peuple. Donc, la théologie de la Nouvelle Alliance voit un seul peuple croyant, pas deux peuples, incluant le reste fidèle avant la première venue de Jésus-Christ et l'Église à partir de la Pentecôte. Donc, on ne voit pas deux peuples de Dieu, c'est juste un peuple de Dieu dans la Nouvelle Alliance qui comprend aussi les croyants de l'Ancien Testament. Donc, il y a continuité dans ce peuple unique en ce qui concerne l'élection et la foi au Messie, on parle de l'Ancien Testament. Cependant, il y a discontinuité en ce qui concerne la réception du Saint-Esprit de façon plénière, c'est-à-dire complète et permanente même en ce qui concerne l'Ancienne Alliance. L'Église n'existait pas, un autre aspect, l'Église n'existait pas avant la Pentecôte. La date officielle, c'était avant la date officielle du début de l'Église. Pourtant, le peuple éternel de Dieu comprend les saints de l'Ancien Testament qui anticipent la venue du Messie. C'était le plan de Dieu aussi. C'est vrai qu'on parle du plan de Dieu de l'éternité, le mystère caché, révélé maintenant à l'Église, que l'apôtre Paul dit. Mais l'Église a eu un début, le peuple de Dieu, le nouveau peuple de Dieu, a eu un début, et c'était le jour de la Pentecôte. Donc, on va voir la préparation du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Genèse 3.15, on va commencer vraiment du début. Genèse 3.15, vous vous rappelez un peu, « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. » Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Ce qu'on connaît des fois en théologie, le protévangile, une façon de peut-être l'évangile qui est déjà annoncé, la solution au péché qui est déjà annoncée dans Genèse 3.15. Donc on voit de l'échec et la chute d'Adam, Dieu prédit qu'il y aura une postérité, c'est-à-dire une descendance qui anéantira le serpent. La descendance comprend aussi les anciens croyants, Abel, Enoch, Noé, selon Hébreux 4.11. Si vous lisez toute l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, vous vous rappelez de quoi il parle? Ça commence par là? La foi. Et il parle des héros de la foi. Il fait tout il mentionne tout depuis le début, les patriarches. Et donc, cette descendance comprend aussi les anciens croyants et les croyants de la période des patriarches, avant la loi, même avant la loi, comme Abraham, Sarah, et Jacob, Joseph. Et on voit cette liste dans Hébreux 11 aussi, la suite. Il faut également incorporer le reste fidèle en Israël de l'Ancienne Alliance, qui croyait en Dieu et avait la même foi qu'Abraham concernant le Messie à venir. Et même après la venue de Christ, tous les disciples, depuis deux millénaires, c'est-à-dire ça fait 2000 ans, plus que 2000 ans, font aussi partie de la descendance victorieuse, le peuple de Dieu. C'est ce qui avait été promis à Abraham. Donc, ce concept du peuple de Dieu a été préparé dans l'Ancien Testament par cette promesse d'Abraham dans quatre descendances. Peut-être on peut voir quatre descendances d'Abraham. Et sa descendance naturelle, on le voit quand on lit depuis le début, Abraham est le père de plusieurs descendances. Dans le sens le plus large, il est le père naturel d'une postérité étendue qui comprend toute sa progéniture physique, Ismaël, Isaac, les six fils qu'il a eu avec sa femme Keturah, Ésaü, Jacob aussi, les Arabes et les Juifs, même Judas et Paul. Paul, il vient de la tribu de Benjamin, c'est ça. C'est la descendance naturelle. Dans Genèse 2, 1 à 3, il dit, « L'Éternel dit à Abraham, va de ton pays, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai celui que tu maudiras. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » On va revenir sur ça. Toutes les familles de la terre. Donc, on a vu encore son descendance naturelle. Dieu a toujours voulu un peuple parmi toutes les nations. On le voit à la fin de ce qu'on vient de lire. Pas seulement Israël. Les nations ont toujours fait partie de son plan. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais il y a quand même une descendance naturelle spéciale. Pas spéciale, c'est spéciale. Mais l'Éternel lui adressa la parole et dit, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. » Il le mena en dehors et dit, « Contemple donc les ciels et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Il ajouta, « Telle sera, quoi ? Encore là, ta descendance. » De qui il parle ? Oui, d'Isaac, mais Israël, c'est après cette postérité, provenant de l'enfant, de la promesse, c'est-à-dire Isaac, deviendra la nation d'Israël. Le premier groupe à être désigné comme le peuple de Dieu. On voit dans l'Ancien Testament qu'Israël est le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, en réalité. Une descendance naturelle spéciale encore, c'est à ce peuple que Dieu s'identifie par l'Alliance abrahamique, d'abord, et mosaïque ensuite. Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple. Je serai votre Dieu. Encore là, vous voyez mon peuple. Et vous reconnaîtrez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux pénibles dont vous chargent les Égyptiens. Donc on voit ce descendant spécial. Mais on voit aussi une descendance unique en Jésus-Christ. Or, les promesses, dit l'apôtre Paul dans Galates 3, 16, or, les promesses ont été faites à Abraham, il recule encore à Abraham, et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances », comme il s'agissait de plusieurs, mais comme une seule. Et à la descendance, c'est-à-dire, l'apôtre Paul, il interprète ce qui a été dit dans l'Ancien Testament. Et dans la Nouvelle Alliance, il dit « et à ta descendance », c'est-à-dire Christ. Christ est la descendance. Une descendance spirituelle aussi, le nouveau peuple. Ce peuple nouveau compte par anticipation le reste fidèle avant la venue de Christ, mais en fait la génération du vrai peuple éternel de Dieu doit attendre la Pentecôte. Lorsque le Saint-Esprit écrit la loi de Dieu sur les cœurs, comme on a vu les prophéties en ce qui concerne la nouvelle alliance des Juifs et des pèlerins, c'est-à-dire les voyageurs des 16 nations le jour de la Pentecôte. Ce peuple, c'est-à-dire l'Église, c'est le corps de Christ, son Église, composée de l'élection juive et païenne aussi. Il y a dans sa chair annulé la loi avec les commandements et leurs dispositions pour créer en sa personne, avec les deux, un seul homme. Il parle d'un peuple nouveau en faisant la paix. Il est en train de parler des Juifs et des païens quand Paul écrit aux Éphésiens dans le chapitre 2. Il n'y a plus de Juifs, encore l'apôtre Paul, ni Grecs. Il n'y a plus ni esclaves, ni libres. Il n'y a plus ni hommes, ni femmes, car vous tous, là il écrit aux chrétiens, vous tous, en Christ Jésus. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Vous êtes des descendants d'Abraham? Par la foi. C'est bon ça. C'est le haut-parleur qui est trop fort. En ce qui concerne l'Ancien Testament, les leaders en Israël protestaient en disant, ils parlaient à Jésus, on voit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8, il dit « Notre Père, c'est Abraham ». Jésus leur dit « Si vous êtes enfants d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham ». L'apôtre Paul explique bien ce qui est nécessaire pour faire partie de ce peuple de Dieu. Il souligne avec force que le critère n'est pas la généalogie, comme il pensait ce juif, la généalogie humaine, mais la foi. Si nous lisons dans Romains 4, 16 à 18, on va le voir. Donc, c'est par la foi pour qu'il s'agisse d'une grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la descendance. Là, il parle de la promesse d'Abraham, non seulement à celle qui est à la loi, mais aussi à celle qui est à la foi d'Abraham, notre père à tous, selon ce qui est écrit. « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père à tous devant Dieu, en qui il a cru, qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, espérant contre toute espérance. Il crut et devint aussi père d'un grand nombre de nations. » Selon ce qui avait été dit, telle sera ta descendance. Encore là, il fait allusion à la promesse faite à Abraham. Donc, dans ce passage qu'on vient de lire, Paul fait un lien entre tous ceux qui avaient cette foi salutaire, que ce soit avant ou après l'avènement de Jésus, car il dit afin que la promesse soit assurée à toute la postérité par la foi. Donc, toute la postérité comprend donc celle qui est sous la loi, les croyants de l'Ancienne Alliance, et aussi tous les croyants depuis la venue de Christ, d'un grand nombre de nations, comme le dit l'apôtre Paul. Il faut une miraculeuse naissance pour faire partie de ce nouveau peuple, c'est vrai? C'est la naissance en esprit qui parle aussi Jésus dans le chapitre 3 de l'Évangile selon Jean, et aussi naissance miraculeuse comme celle d'Isaac, pour Isaac aussi. Parce qu'ils sont la descendance d'Abraham, tous ne sont pas ses enfants, il dit. Mais il est dit, en Isaac, tu auras une descendance appelée de ton nom, c'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont comptés comme descendants. Je pense que c'est plus clair et ce que l'apôtre Paul mentionne par rapport à cette descendance. Cette nouvelle entité est donc l'accomplissement de l'alliance faite à Abraham. Ainsi, Abraham crut, et cela lui fait compter comme justice. Reconnaissez-le donc, ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham, le croyant. Comme nous, en réalité. Dieu confirme aussi par ses prophètes sa volonté exprimée de la façon de l'alliance abrahamique, c'est-à-dire l'alliance faite à Abraham. On lit dans Ésaïe 42, 6, « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour la justice et je te prends par la main. Je te protège et je t'établis pour faire alliance avec le peuple, pour être quoi? La lumière des nations. » Donc, les frontières de son peuple comprennent toutes les nations du monde. Encore dans Ésaïe, « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé par la justice et je te prends par la main. » Il dit aussi dans Ésaïe, « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour que mon salut soit manifesté jusqu'aux extrémités de la terre. » On croit être en train de lire le Nouveau Testament, hein? Je t'ai établi pour faire alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Ça, on voit déjà l'annonce dans Ésaïe 49. En ces temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations se dirigeront vers elle et au nom de l'Éternel vers Jérusalem. Et elles ne suivront plus l'obstination de leur cœur mauvais. Toutes les nations, encore là, dans Jérémie 3, 17, est confirmé par les prophètes de l'Ancien Testament. Osée aussi, écrit dans le chapitre 2, « Pourtant, le nombre des fils d'Israël deviendra comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer ni se compter à l'endroit où on leur disait, « Vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils de Dieu, du Dieu vivant. » Ce texte qu'on vient de lire dans Osée est interprété par Paul comme visant la nouvelle alliance dans Romains 9, 24, 26, c'est-à-dire à nous qu'il a appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, comme il dit dans Osée. Puis il cite ce verset qu'on vient de lire dans Osée. « Celui qui n'est pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple, et celle qui n'est pas ma bien-aimée, je l'appellerai ma bien-aimée. » Et le maire est la même où on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple », ils seront appelés « Fils du Dieu vivant ». Donc Dieu préparait un nouveau peuple, bien avant la Pentecôte. Donc quelle sera la relation entre l'ancien peuple et le nouveau? Quelle est la relation, quels sont les liens entre ces deux peuples? Le peuple de Dieu, de l'Alliance, de l'Ancienne Alliance, sert en réalité des types de l'Église. La relation typologique entre Israël et l'Église, en réalité, ce qu'on va voir dans les points suivants. Les écrivains de l'Ancien Testament voient souvent les promesses comme accomplies dans la nation, littéralement, d'Israël. Cependant, ceux du Nouveau Testament en attribuent l'accomplissement à l'Église, comme on vient de le lire. Paul y en fait plusieurs fois la référence en parlant de l'Église, la promesse faite à Abraham. Par exemple, l'accomplissement des promesses de Genèse 12 à 17, on ne va pas lire tous les chapitres de 12 à 17, mais Josué le résume dans le chapitre 21 de Josué, 43-45. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays et qu'il avait juré de donner à leur père, et ils prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne peut leur résister. Et l'Éternel livra tous leurs ennemis entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Tous, quoi? S'accomplirent. Donc, il les voit dans le temps. Dans le temps de la révélation, Josué tire cette conclusion, et sûrement guidé par l'Esprit de Dieu, donc inspiré par l'Esprit. Il affirme l'accomplissement de toutes les promesses faites au Père et à la maison d'Israël dans Josué 21. Donc sa perspective des promesses de l'Alliance abrahamique est centrée sur la nation physique et un accomplissement physique dans le peuple d'Israël. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux voit les choses d'un point de vue différent dans la Nouvelle Alliance. Il dit, « Et tous ceux-là qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage n'ont pas obtenu de ce qui leur avait été promis, car Dieu avait en vue quelque chose de quoi? De meilleur, pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. » Il est en train aussi de faire référence à cette promesse. L'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare aussi également, sous l'inspiration divine, que les promesses n'ont pas été réalisées. Quand on lit dans le chapitre 11, dans le même chapitre, l'auteur semble aller dans la même direction que Josué concernant la promesse d'un pays. Si on voit, c'est par la foi qu'Abraham, il parle d'Abraham, obéit à l'appel de Dieu, en partant vers un pays qu'il devait recevoir un héritage. Et il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint établir dans la terre promise comme un pays étranger, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. Mais Le prochain verset affirme qu'Abraham avait les yeux fixés sur une patrie complètement différente. Car qui, Abraham, il attendait la cité qui a des solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc, une autre évidence de ces liens entre Israël et l'Église se trouve dans le fait que le Nouveau Testament attribue le même nom à l'Église que l'Ancien Testament donne à Israël. Donc, par exemple, l'expression « mon peuple » paraît environ 125 fois dans l'Ancien Testament en désignant Israël. Et Paul prend cette expression « mon peuple » et il l'applique à l'Église. C'est-à-dire à nous qu'il a appelé, non seulement entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, comme il est dit dans Osée. Voici comment il interprète ce que Osée dit dans Osée le prophète. « Celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple, et ils seront appelés fils de Dieu. » Paul prend une parole d'Osée qui paraissait s'appliquer à Israël physique, mais sous l'inspiration divine, dans la Nouvelle Alliance, il applique à l'Église, composée des Juifs et aussi des non-Juifs dans la Nouvelle Alliance. Et nous lisons aussi dans 2 Corinthiens 6:16, « Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles, car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'y habiterai et je marcherai au milieu d'eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Paul cite Lévitique 26:12. « Je marcherai au milieu de vous pour être votre Dieu et pour que vous soyez mon peuple. » On voit clairement comment les auteurs du Nouveau Testament interprètent l'Ancien Testament avec la nouvelle révélation en Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens 6:16, le Saint-Esprit réoriente dans la pensée de Paul. Ce qu'il dit à Israël, dans l'ancien peuple, il l'applique à l'Église, comme je viens de dire, de Corinthe, qui fait partie du nouveau peuple de Dieu. Donc, vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Encore le même langage de l'Ancien Testament. Un peuple racheté afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et maintenant vous avez obtenu miséricorde. Pierre aussi prend les paroles d'Exode 19:6, qui désignait les enfants d'Israël. Sous l'inspiration aussi divine du Saint-Esprit, il redéfinit le peuple de Dieu comme étant l'Église, c'est-à-dire le nouveau peuple de Dieu. Vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Il reprend en réalité les paroles d'Exode 19:6, il applique à l'Église aussi. On peut considérer les rites aussi, en ce qui concerne la typologie entre Israël et l'Église, on peut considérer aussi les rites, les cérémonies, les ordonnances des deux alliances comme des types entre l'ancien peuple, Israël, et le nouveau peuple, l'Église. Dans Deutéronome, on voit déjà, dans Deutéronome 36, laisse déjà entrevoir la circoncision, que la circoncision dans la chair n'était que l'ombre d'une circoncision intérieure primordiale. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance pour que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu... C'est quand même étonnant, hein, que déjà Deutéronome est en train d'annoncer cette circoncision du cœur. On voit un lien entre ce rite du peuple d'Israël et son accomplissement spirituel pour l'Église. Dans Colossiens 2:11, l'apôtre Paul mentionne « En lui, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair, la circoncision du Christ. » Un autre exemple se voit dans le sens de la Pâque juive. Lorsqu'on le compare et qu'on contraste la signification de cette célébration pour Israël et pour l'Église, on observe des liens et des différences aussi. Les Juifs observaient la Pâque, c'est-à-dire en hébreu, ça voulait dire passer outre, chaque année pour célébrer leur sortie d'Égypte, pour la délivrance des destructeurs qui passaient outre les maisons portant l'insigne du sang d'un agneau. Donc l'Église célèbre Christ et notre Pâque, comme l'apôtre Paul le mentionne, en se rappelant l'expiation accomplie par le Rédempteur lors de la mort en croix et sa résurrection 3 jours plus tard. Donc, le lien typologique entre la Pâque du peuple d'Israël et la notion christocentrique de la Pâque pour le nouveau peuple de l'Église est évident en ce qu'écrit l'apôtre Paul. Il dit « Purifiez-vous du vieux levain afin que vous soyez une quoi ? Une pâte nouvelle ?» Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Vous voyez les parallèles, les contrastes aussi. Finalement, on contraste des parallèles entre les deux alliances, dans les relations entre le Christ et son Église, et la relation entre les leaders et Israël. Donc, la typologie nous fait comprendre des points, des similitudes, mais aussi des contrastes. On pourrait parler peut-être des continuités et discontinuités aussi. Moïse est le libérateur d'Israël d'un esclavage terrestre et le leader législateur qui dirige l'Exode. C'était Moïse qui a fait sortir le peuple d'Égypte. Mais Christ a affranchi le nouveau peuple par son Exode qui allait accomplir à Jérusalem. On voit cette annonce dans Luc 9:31 quand il annonce qu'il allait mourir. La relation entre Abraham, Moïse, Aaron, Josué, David et tous les autres rois, juges et officiers du peuple d'Israël, on voit cette relation. Jésus est plus grand que tous. Et sa relation au nouveau peuple en tant que prophète, sacrificateur et roi est plus grandiose. Si vous lisez toute l'épître aux Romains, vous allez voir ces contrastes-là, ces similitudes aussi. Il est la tête, qui ça? Jésus, il est la tête de l'Église qui est son corps. Il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. C'est aussi des symboles qui sont utilisés dans l'Ancien Testament et sont repris dans le Nouveau Testament en parlant de Jésus. Notre Seigneur, donc l'Église annoncée par Jésus-Christ, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament, notre Seigneur crée personnellement une nouvelle société qu'il appelle « Mon Église » et qui est identifiée comme étant le corps du Christ. Il est la pierre angulaire de ces bâtiments. Paul utilise, je crois, cette expression hébreu aussi, il me semble. Il établit les 12 apôtres comme fondement par leur enseignement normatif. Le choix des 12 apôtres signale la continuité typologique entre l'ancien peuple de Dieu issu de Jacob et son peuple issu du vrai Israël. C'est quand même particulier que dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, il y avait quoi? 12 quoi? Tribus. Nouveau Testament, c'est les 12 apôtres. La rédemption de ce nouveau peuple est acquise à grand prix lors de la crucifixion et de la résurrection de Jésus-Christ. Donc, à la Pentecôte, le Père et le Fils envoient la troisième personne de la Trinité pour débuter la construction du nouveau peuple de Dieu, c'est-à-dire l'Église, le temple du Saint-Esprit. Le même mot « Église » est identifié par Jésus-Christ dans sa dimension universelle, dans Matthieu, dans le chapitre 16, et dans le chapitre 18, il aussi parle du mot « Église » dans une dimension locale. On va voir. « Mais vous, leur dit, qui dites Qui dites-vous que je suis ?» C'est Jésus qui pose cette question. Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Et Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » C'est-à-dire le témoignage qu'il vient de dire. Je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je bâtirai quoi? Mon Église. Est-ce qu'il parle de l'Église, d'une Église locale? de Jérusalem. Non, il parle vraiment de l'Église universelle. La profession de Pierre, la confession de Pierre aussi, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, occasionne l'annonce et la désignation du nouveau peuple de Dieu. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Donc, il y a une référence au présent sur cette pierre, le témoignage de Pierre, et une référence au futur, je bâtirai mon Église. Il faut encore attendre le début officiel de cette construction à la Pentecôte, qui est dans un avenir proche. Si on parle du contexte où il est annoncé ce que Jésus vient de dire. Donc, dans Matthieu 18, 17, j'ai accourté un peu le passage, non, mais il dit, s'il refuse d'écouter, dis-le à qui? À l'Église. Il indique l'Église locale, car on y contraste les instructions de Jésus pour le processus disciplinaire dans son Église et dans son contexte de discipline. Je pense que vous connaissez ce passage-là. Si ton frère a péché, va, reprends-lui, puis si ce n'est pas, en tout cas, amène un autre frère. Sinon, après, tu le diras à l'Église. Donc, c'est là que Jésus est en train de dire, tu le diras à l'Église, pas à l'Église universelle, à l'Église locale. Il sera impossible d'effectuer la discipline dans le cadre de l'Église universelle. La majorité de la centaine d'emplois de mots Église dans le Nouveau Testament désigne l'Église locale. La majorité. Si Jésus annonce la création de son peuple, l'Église, il annonce aussi que le peuple de Dieu, nommé Israël, devrait perdre son statut et qu'il aurait une réattribution du royaume. Et c'est l'enseignement de la parabole des vignerons dans Matthieu 21-33. À 46, on ne pourra pas le lire. Les leaders visés dans la parabole ont compris la dure vérité. Le royaume des dieux vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira. Il faut voir clairement là, que ce royaume est enlevé au fils d'Israël. Donc le verdict de Jésus est fondé prophétiquement et il demande à ses détracteurs. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée, ce qui baptise est devenu la principale, celle de l'angle? Ça s'est tiré du psaume 118-22. Donc ainsi l'Ancien Testament prédisait non seulement la constitution d'un nouveau peuple, mais aussi la raison de la destitution, malheureusement, de l'Ancien. Donc, Jean déclare que la parole vivante est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Cependant, l'élection de Dieu parmi les Juifs ne se sera pas, comme Paul enseigne dans Romains 9 à 11. Il est vrai que le royaume a été enlevé pour le nouveau royaume, le nouveau peuple, mais il y avait encore des Juifs qui vont se convertir. On le voit aussi dans Actes des Apôtres, qu'on voit beaucoup de Juifs et des sacrificateurs qui se convertissent à la foi. C'est pourquoi le peuple de Dieu, l'olivier du salut, est maintenant garni des branches ethniques et juives, et c'est là jusqu'au retour du Messie. Pour comprendre peut-être ces expressions, il faudrait lire Romains 9 à 11. On n'aura pas le temps, mais on va l'étudier. Justement, on est dans la série des Romains. On va avoir le temps d'étudier dans les prédications en ce qui concerne ce passage. On constate donc la discontinuité, la continuité, la transformation concernant le peuple de Dieu. D'une part, il y a la discontinuité théocratique, c'est-à-dire dans Matthieu 8, 12. D'autre part, il y a une continuité à Judée-Juif selon l'élection tout au long de cet âge. Et enfin, la notion du peuple de Dieu est transformée par l'ajout des croyants ethniques tout au long de l'âge. Et même aussi des Juifs qui vont se convertir. À la fin de son évangile, Luc rend sa version du grand mandat. La repentance en vue du pardon des péchés s'est prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Il répète l'instruction que Jésus avait faite à son peuple. Et voici, j'enverrai sur vous que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel du bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Et vous voyez la suite, des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient, et les uns les autres leur apparurent, et elles se posèrent sur chacun d'eux, ils furent tous, quoi? Remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est le jour de la Pentecôte. C'est vraiment la naissance de l'Église, du nouveau peuple de Dieu déjà annoncé par Jésus. Cet acte inaugural pour l'Église était le sceau de Dieu, attestant aux 120 personnes réunies dans la chambre haute et à la population qu'un événement majeur venait d'avoir lieu. Puis on le voit aussi dans Actes 2, 16 à 18, qui dit, mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël, dans les derniers jours, dit Dieu, je reprendrai mon esprit sur toute chair, juifs, païens, tous. C'est ce qui dit le prophète Joël. On va passer vite là. Dans la prophétie de Jérémie, l'accent est mis sur la nouvelle alliance et dans celle d'Ézéchiel. On l'a vu, je pense, la semaine passée aussi, sur le rôle de l'Esprit. Dans Actes 2, 16 à 18, Joël est cité par Pierre pour souligner l'universalité de l'effusion de l'Esprit en toute chair. Donc, c'est ce qu'on vient de lire dans Actes 2, 16 à 8. C'est Joël qui est cité par l'apôtre Pierre. Donc, on constate que 16 nations représentées à la célébration de la Pentecôte étaient une célébration historique. Donc, on voit qu'il y a d'autres nations qui se convertissent aussi. Donc, le nouveau peuple est le peuple eschatologique. C'est-à-dire, c'est l'accomplissement de la promesse abrahamique que la descendance bénirait toutes les familles de la terre. Donc, la création de l'Église ne représente pas un simple remplacement d'un peuple par un autre, mais plutôt la discontinuité et la continuité et la transformation pour ceux qui se nomment Israël. C'est pour ça que l'Église est une nouvelle société composée des deux élections, l'une à même Israël, qui vient d'Israël, et l'autre parmi les nations. Un seul peuple unifie et réconcilie l'Israël de Dieu, comme l'apôtre Paul le mentionne dans Galates, dans Éphésiens, pardon. Dieu a un seul nouveau peuple, dans Galates aussi. Dieu a un seul nouveau peuple unifie, car c'est lui notre paix, lui qui des deux n'en fait qu'un, c'est-à-dire il part des Juifs et des païens. Je n'aurai pas de lire la suite, tant de lire la suite aussi. Donc, Ésaïe prévoit cette unité. Il parle qu'il rassemblerait d'autres avec les siens. Dans Zacharie aussi, il dit « Beaucoup des nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. » Vous voyez l'implication d'autres nations aussi. Siméon, vous vous rappelez quand Siméon, lors de la présentation de Jésus, « Car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant le peuple, lumière pour éclairer les nations, la gloire de ton peuple Israël. » Le médiateur même de la nouvelle alliance annoncera lui-même son programme de réunification. « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. C'est là, il faut que je les amène. Et l'entendront ma voix, il y aura un seul troupeau et un seul berger. » Un seul peuple, un seul troupeau et un seul berger. C'est ce que Jésus annonce et dit. Caïphe, sans le vouloir, il prophétise. La dernière partie, il dit, et non seulement pour la nation, mais aussi afin que de réunir en seul corps les enfants de Dieu dispersés. C'est Jean qui écrit là, quand il dit que Caïphe prophétisa ce que Jésus devait mourir pour la nation. Et non seulement pour la nation, il dit, mais aussi afin de réunir en un seul corps, c'est-à-dire en seul peuple, les enfants de Dieu. Malheureusement, on ne pourra pas tout finir. Là, je vous demande juste une minute de plus. Dans Actes 15, 8 à 9, « Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu le témoignage et leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. » Donc, les croyants païens et croyants juifs avaient reçu le même Saint-Esprit. On va passer ce... Malheureusement, on doit passer quelques versets. Dans Jacques aussi, dans Acte 15 aussi, il parle de ce nouveau peuple, d'autres nations qui vont rentrer dans ce nouveau peuple. Et donc, à la fin de la lettre aux Galates, Paul insiste après que ces chrétiens tentés par le légalisme, il dit, « Car ce qui compte n'est pas la circoncision ni l'incirconcision, mais c'est d'être une nouvelle créature. Sur tous ceux qui suivront cette règle, paix et miséricorde, ainsi que sur l'Israël de Dieu. » On trouve cette expression de l'apôtre Paul, l'Israël de Dieu. Il termine en lançant une expression qui résume bien ce qu'il a affirmé à ses chrétiens non-juifs à propos de leur lien avec Abraham. Israël est le nom donné à la nation juive, certes, mais néanmoins, nous qui croyons en Jésus-Christ d'origine juive ou païenne, nous sommes le véritable Israël de Dieu. Maintenant, parce que nous formons le peuple de Dieu, un seul peuple unifié. Puis on pourrait citer d'autres versets, malheureusement on doit finir là, qui parlent vraiment de cette unité en ce qui concerne le peuple de Dieu, Israël de Dieu, qui unifie les païens et les juifs. On pourrait parler de ce passage aussi qui parle de tout Israël sera sauvé, mais on n'aura pas le temps, mais on va sûrement le... Il va être prêché dans le chapitre 9, 10 et 11. J'aimerais finir peut-être avec Apocalypse 7, 9 à 12. On voit cet accomplissement du nouveau peuple de Dieu dans Apocalypse 7, 9 à 12 qui dit « Après cela, je regardais, voici une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône, devant l'agneau vêtu des robes blanches et des palmes à la main. Et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est aussi sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, les anciens et des quatre êtres vivants, ils tombèrent la face contre terre devant le trône et adorèrent Dieu en disant « Amen !» La louange, la gloire, la sagesse, l'action des grâces, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. C'est ce qu'on va voir dans le futur. Et je le dis toujours, on est quand même plusieurs nations représentées, tout peuple, toute langue, toute nation ici à Rosemont. Un jour, on sera dans ce chapitre qui est annoncé à l'avance et on sera en train, par la foi, d'adorer Dieu et l'agneau, nous qui sommes le nouveau peuple de Dieu qui a été annoncé depuis l'Ancien Testament. J'aimerais quand même lire un psaume que j'ai trouvé dans un passage dans le psaume 22 qui dit « La postérité lui rendra un culte. On parlera du Seigneur à la régénération future. On viendra annoncer sa justice au peuple qui naîtra, il dit, ou au peuple nouveau-né, il dit, car l'Éternel agit. » Et c'est un passage de psaume aussi. Et le psaume 102, 19, « Que cela soit écrit pour la génération future, et le peuple qui sera créé louera l'Éternel, en parlant vraiment d'un nouveau peuple qui sera créé, qui naîtra. » Prions. Merci Seigneur pour ta parole qui nous raconte cette belle histoire du salut, Seigneur, et toutes ces progressions, toutes ces annonces, et ta révélation, Seigneur, merci, parce que nous pouvons dire que nous sommes maintenant le peuple, ton peuple, Seigneur, racheté par le sang de l'agneau et par le sacrifice de Jésus, Seigneur. Et permet qu'on puisse davantage lire ta parole et découvrir toutes ces vérités, Seigneur. Sachant que ton plan est parfait, tu vas le finir jusqu'à la fin des temps. Là, on va te louer tous ensemble, à cause de tes promesses, Seigneur, à cause de ta fidélité. Au nom de Jésus, Amen.